France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthès.
Et c'est donc la polémique qui a traversé l'été, la voilà qui rebondit très sévèrement en ce début d'automne. Foot et homophobie, l'avantage c'est qu'on a commencé à se mettre autour d'une table cet après-midi au fond. C'est pas dommage. Ce qui est intéressant, c'est aussi que la polémique nous parle de beaucoup de choses. Elle parle évidemment de football. Y a-t-il une spécificité des tribunes de foot? Quand on nous dit que les insultes, ce n'est pas de l'homophobie, c'est du folklore, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'un stade est un endroit particulier où on peut se lâcher, où on a le droit de tout dire? La polémique, elle parle évidemment d'éducation aussi. Tous les enfants jouent au foot. Est-ce que du stade à la cour de l'école, il y a quelque chose qui est hermétiquement clos? La polémique parle aussi de deux mondes, le monde politique et le monde sportif, qui ne se comprennent pas toujours et qui ne se parlent pas forcément non plus sur le bon ton. Alors est-ce qu'on a été trop vite? Est-ce qu'on monte sur nos grands chevaux? Qui monte sur ces grands chevaux? Est-ce que le foot qui est si populaire doit montrer l'exemple? Est-ce qu'on doit sanctionner? Et si oui, comment? À vous de nous le dire et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Allez Sylvain, c'est vous qui commencez. Bienvenue à vous Sylvain et bonsoir.
Oui, bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Allez-y Sylvain.
Moi, en fait, je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais je comprends un petit peu là où a voulu en venir le président, dans le sens où...
Le président Noël Le Graët, vous voulez dire?
Oui, tout
d'accord,
à fait.
D'accord, ok.
Dans le sens où, quand dans les stades de foot, on entend, par exemple, malheureusement, comme dans les stades italiens, des cris de singes, par exemple, ou ce genre de choses, là, on est vraiment ciblé sur du racisme, sans aucun doute.
Je sais pas ce qui fait du bruit derrière vous, mais c'est assez désagréable. Vous pouvez pas l'éloigner, Sylvain? Si, c'est quoi?
Ça y est, ça s'est arrêté.
Ok. Allez-y.
Donc là, c'est bel et bien ciblé, on est bien sûr du racisme. Par contre, ça fait, j'ai 33 ans, ça fait 25 ans que je m'intéresse au foot, ça fait 25 ans que j'ai toujours entendu Oïs s'enculer au moment où le gardien dégageait. Je suis pas certain qu'il y a 25 ans en arrière, par exemple, il y ait un quelconque gardien qui se soit senti visé par ce genre de choses.
Et en même temps, qu'en savez-vous, Sylvain? Non.
Ben même après, je vois sur les terrains, même des petits villages où moi j'ai pu jouer étant gamin, c'est quelque chose qui a toujours existé. Mmh. Alors j'aime pas le nom de folklore parce que je trouve ça ridicule, mais malheureusement les gros mots sont devenus monnaie courante. On en entend partout, dans les médias, sur les plateaux de télé.
Bah pas à ce point-là quand même, non Sylvain, honnêtement. Il y a des, j'ai jamais entendu Oïs, c'est ce que vous dites, de la part de quelqu'un à la télévision, non peut-être. Parce que vous dites gros mots. Est-ce qu'on considère que c'est un gros mot, du coup? On le met au, en gros, on va le dire comme ça. Est-ce que dire merde, c'est pareil? Parce que merde, c'est un gros mot.
Non, mais de la façon dont là, c'est mis en avant par les politiciens et journalistes et autres, oui, pour eux, c'est un truc énorme, quoi. Alors que malheureusement, c'est devenu comme... je vois par exemple un truc tout bête, mais j'ai des enfants, quand je les entends jouer, ça me met hors de moi. Quand ils sont avec leurs copains, c'est à base de « Oh, le con, qu'est-ce que t'as fait, machin ?» C'est devenu banal. Et on peut pas en vouloir à tout le monde de mettre une banalité sur ce genre de choses, alors que c'est devenu banal partout.
Et j'ai une dernière question pour vous, Sylvain, avant de donner la parole à nos invités. Quand vous entendez vos enfants qui parlent de cette manière, est-ce que vous les reprenez ou pas?
Oui, je les reprends. Malheureusement, après, je suis pas toujours derrière eux. Et malheureusement, non plus, dans la cour de récréation, c'est là où ils en apprennent le plus et où je suis le moins présent.
Et c'était ça le sens de ma question en fait, puisque vous reprenez les enfants, l'idée c'est pour pas qu'ils aient ce genre de vocabulaire, pourquoi pas imaginer de faire la même chose au fond avec des supporters? C'était ça le sens de ma question Sylvain.
Ben parce que malheureusement ça s'est banalisé partout.
Et merci pour cette entrée en matière, parce que vous êtes dessus et vous êtes nombreux à avoir ce genre de point de vue au standard du téléphone sonne. On a vraiment envie d'écouter tout ce qui se dit en ce moment, tout ce qui s'est aussi beaucoup dit. Merci beaucoup Sylvain pour discuter ensemble autour de la table ce soir. James Trophée, là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de l'ADAGIS, Paris SG fan, ça veut dire que vous êtes supporter du PSG, vous faites partie d'une association de supporters du PSG. Bonsoir Julien Pontès.
Oui, bonsoir.
Vous êtes l'ancien président de Paris Foot Gay, vous êtes cofondateur du collectif Rouge Direct qu'on a beaucoup entendu s'exprimer, notamment après les propos du président Le Graët. Bonjour Philippe Lyotard.
Bonjour.
Vous êtes enseignant à l'université de Lyon 1 et sociologue du sport. Et puis on a Guillaume Batin avec nous. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Fabienne.
Du service des sports de France Inter. Vous êtes là surtout Guillaume parce que vous revenez des Pays-Bas et vous allez nous montrer comment ça se passe en fait aux Pays-Bas. J'aimerais votre point de vue à tous les deux. James Roffet d'abord sur ce que dit Sylvain. La banalité, je l'entends, de ce qu'il dit sur la banalité des mots jetés ici et là. Mais est-ce que c'est une raison est-ce que c'est vraiment un bon argument de dire, bah, puisque c'est banal, on n'a qu'à continuer à dire tout ce qu'on dit dans un stade ?
Alors, sur la banalité, c'est pas une banalité qu'on retrouve au stade, hein, c'est une banalité qu'on retrouve dans le vocabulaire un peu partout dans la société.
Non, non.
Après, si c'est pour la spécificité du stade, la question est posée. Maintenant, on a mis un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que je pense qu'on interrogerait 10 000 personnes, chacun aurait son avis sur quel mot est considéré comme homophobe, le contexte, etc. On est dans un état de droit, donc aujourd'hui, il faut quand même considérer que voilà, qu'est-ce qui est vraiment injurieux, comment c'est jugé, etc. Maintenant, si on revient juste au foot et à la sensibilisation des personnes, c'est là où on a mis un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que on n'a pas eu le débat justement à savoir, bah voilà, qu'est-ce qui est de la banalité, qu'est-ce qui est injurieux, qu'est-ce qui est embêtant, etc.
James, on va pas faire un glossaire.
Pour commencer le débat et pouvoir en discuter, il faut savoir qu'est-ce qu'on cible et qu'est-ce qu'on vise. Soit c'est la lutte contre l'homophobie avec des choses particulières, soit c'est l'expression, effectivement, comme vous dites, dans les stades, et qu'est-ce qui peut être acceptable et pas acceptable. On est dans deux choses différentes. Et là, évidemment, il faut commencer à savoir de quoi on parle.
Ça veut dire qu'il y a des choses acceptables dans un stade, mais pas à l'extérieur et inversement, ou pas?
Ça veut dire qu'aujourd'hui, évidemment, il y a des gens qui trouvent ça inacceptable, il y a des gens qui vont trouver ça banal, il y a des gens qui vont trouver ça, ils vont vous dire, comme on a pu entendre, c'est du folklore ou autre. Maintenant, il faut que les gens un peu se réunissent, que les gens réfléchissent à la question et qu'on arrive à peu près à se dire, bah voilà, qu'est-ce qui est de la sensibilité, qu'est-ce qui est pas de la sensibilité, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est pas légal, qu'est-ce qu'on aimerait, où est-ce qu'on voudrait travailler sur l'éducation, où est-ce qu'on voudrait travailler sur la sensibilisation, etc. C'est un peu les bases de pouvoir commencer à travailler sereinement, comme on va avoir des tables rondes ou des discussions avec les différents acteurs.
On y reviendra, il y a quand même une chose qui me fait sursauter dans ce que vous dites, James Roffet. Vous dites on est dans un état de droit.
Oui.
Bah oui, justement, on est dans un état de droit. Et il se trouve que les paroles homophobes qu'on entend dans les stades, si on les prononce dans la rue, on est condamné, parce qu'on n'a pas le droit. Alors, donc du coup, est-ce que l'état de droit s'arrête à la porte du stade ?
Alors moi, je suis pas juriste. En tout cas, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que dans les jugements, il y a l'intentionnalité. Et c'est un peu ce que vous retrouvez d'ailleurs dans la défense souvent des supporters. Et alors là, je peux le dire parce que moi, c'est pareil. J'ai pu me retrouver à dire moult insultes, etc. Ça veut pas dire que je suis homophobe, ça veut pas dire que je suis raciste ou autre. Et là, c'est un peu ce que vous entendez de la part des supporters. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de réaction un peu épidermique, c'est-à-dire que non, on n'est pas homophobe. Et à la limite, ce qu'on pourrait reprocher à tout le monde, c'est de passer de poser la question et d'en revenir un peu à ce qu'on dit. Bah, c'est devenu des banalités. Et on s'est pas posé la question. Et là où c'est intéressant, c'est de dire voilà, quand il y a des gens autour de la table, voilà, ça heurte des sensibilités, ça fait des choses, etc. Et qu'on puisse commencer à en discuter sereinement.
Julien Pontes, pour discuter sereinement, est-ce qu'on va faire un glossaire ? Comment on fait pour en discuter sereinement ? Comment on fait pour que ce soit pas blanc ou noir, en fait ?
Oui. On commence par discuter, comme on est en train de le faire avec James Roffet, avec qui j'ai beaucoup de plaisir à partager, parce que il faut trouver des points de convergence et je sais qu'il y en a beaucoup. Il faut avancer dans ce sens-là ensemble. Hein. Il faut gagner cette bataille contre l'homophobie et les discriminations ensemble. Oui, effectivement, l'injure homophobe, elle est banalisée. Je peux vous le confirmer parce que moi je suis gay et ça fait 45 ans que du PD, du tapette, du tarlouze, j'en prends tous les jours. Pas intentionnellement, hein, parce que ça se voit pas, contrairement à un joueur noir, hein, je reviens à ce que disait Sylvain. N'empêche que, ouais, il y a un bain d'homophobie, comme ça, qui est certainement en grande partie inconscient. Et comme disait James, il faut expliquer ce qu'est l'homophobie. C'est pas évident pour un supporter de savoir ce qu'est l'homophobie. Moi, je le sais. On est beaucoup d'associations LGBT à pouvoir l'expliquer très clairement. Je peux vous dire que ça ressemble à du racisme. Je pense qu'un spectateur dans un stade qui est noir et qui entend des cris de singe, je pense qu'il a la même souffrance que moi, je peux avoir quand j'entends PD, tapette dans un stade de foot. Voilà. Donc, effectivement, James a raison. La Ligue a tiré très fort avec ces arrêts de match qui étaient prévus dès le début de la saison. Il aurait fallu expliquer clairement ce qu'est l'homophobie. Il aurait fallu déterminer, effectivement, pourquoi
vous
pas.
Vous voulez qu'on fasse un glossaire, sérieusement ?
Pourquoi pas. C'était une des propositions qui avait été faite au mois de mai. Je pense que de manière très pragmatique, ça aura aidé les arbitres à prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est pas rien. Voilà. Maintenant, moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que on se pose la question de savoir si PD c'est une injure homophobe.
Mais vous parlez d'intentionnalité et précisément, c'est intéressant ce que dit James sur l'intentionnalité, ouais, parce que effectivement, mais ça dépend qui la reçoit. Peut-être qu'il y a des gens qui, si on dit tapette, ça leur fera ni chaud ni froid. D'autres que ça blessera terriblement. Et est-ce que dans ces cas-là, celui qui gagne, c'est pas celui que ça blesse terriblement, quel que soit le cas de figure?
Oui, parce que si vous voulez, les homos, ils sont très habitués, effectivement, on entend ça tous les jours. Donc, quelquefois, les homos intériorisent, utilisent même quelquefois ces injures homophobes. Juste une petite anecdote, Louis Nicolin, l'ancien président du club de Montpellier, il avait traité Benoît Pedretti de petite tarlouse. Oui, le regretté Louis Nicolin. Il avait traité Benoît Pedretti de petite tarlouse, il avait pris une sanction. Nous, à l'époque, on était Paris Foot Gay. On avait évidemment dénoncé les propos de Louis Nicolin. Eh bien, il nous avait invités à discuter avec lui. Mmh. Il avait compris. Pourquoi est-ce que c'est une souffrance, ces injures homophobes? Et il avait signé la charte contre l'homophobie avec son club de Montpellier. Voilà, il suffit d'expliquer quelquefois, et puis c'est comme ça qu'on avancera pour montrer la dimension homophobe et violente de ces propos qui sont banals dans les stades de foot.
Philippe Lyotard, avant qu'on retourne au standard, il y a quelque chose qui reviendra souvent cette soirée, c'est la frontière en fait entre la vraie vie, j'allais dire ça comme ça, et l'intérieur du stade. Est-ce que au fond vous avez le sentiment que qu'il y a un vrai mur entre les deux, qu'on a le droit, ou en tout cas le sentiment d'avoir le droit à l'intérieur de l'enceinte du stade, d'une autre attitude et donc d'un autre vocabulaire?
Alors, si vous me posez la question en termes de droit, non, on n'a pas le droit. Je reviens à ce que vous
disiez
tout à l'heure.
J'ai mis des guillemets. Est-ce qu'on a le sentiment, quand on est dans le stade, qu'on est dans un autre lieu, en fait?
Alors, voilà, et je réponds à ce que vous dites par rapport à ce que vous avez déjà soulevé. C'est-à-dire qu'on est dans un état de droit, et l'injure est définie par le code pénal, et le fait d'utiliser une injure à caractère racial, raciste ou homophobe, c'est une circonstance aggravante. Et une autre circonstance aggravante, c'est le fait que ça soit proféré en public. Donc, on voit que le droit s'exerce partout, donc y compris dans le stade. En revanche, ce qui se passe, c'est que dans le stade, tout à l'heure vous avez parlé de folklore, il y a des choses qui se sont instituées, qui sont donc apprises, transmises, diffusées aux plus jeunes. Et je prends la première personne qui a téléphoné, quand elle dit ça fait 25 ans que je vais au stade, ça fait 25 ans que j'entends les mêmes choses, je trouve ça très intéressant parce que cette personne était porteuse de toutes les contradictions qu'il y a dans le débat aujourd'hui. Je parle pas du haut niveau et des supporters structurés, mais les contradictions qu'il y a auprès de personnes qui vont suivre le match de foot et dire bah oui c'est normal, j'ai toujours entendu ça, c'est comme ça, et en même temps cette même personne dit ça m'est hors de moi quand j'entends mes enfants mal parler. Mais quand on voit des gamins de 8-10 ans qui commencent à chanter avec les groupes de supporters en utilisant les propos qui sont aujourd'hui discutés et condamnés, ces enfants ils sont bien dans un apprentissage et c'est ça qui fait que ça va devenir normal pour eux, sauf si on dit et qu'on travaille à ce que ça ne se produise pas et qu'on trouve d'autres manières. En fait, voilà, on peut tout à fait encourager son équipe sans humilier l'autre, parce que pour revenir à l'intention, dans l'injure il y a une intention. Au niveau pénal, une injure c'est un propos qui est adressé à une personne dans l'intention de la blesser ou de l'offenser. Or ces chants qu'on entend, ces chants qui sont discutés aujourd'hui, qui sont condamnés par les ministres, qui sont condamnés par la présidente de la Ligue par exemple, eh bien ces chants, ce sont des chants qui sont explicitement proférés pour humilier, pour blesser, pour offenser l'adversaire. Qu'on ne me dise pas, même si on dit que c'est pas homophobe, que le choix des mots, le choix des propos, le choix des chants n'est pas fait pour blesser, humilier, rabaisser, offenser. C'est la fonction même dans le stade, j'entends, vous me posiez la question dehors de l'ordre, c'est la fonction même dans le stade de ces chants structurés par les supporters.
Alors, les chants et les conséquences de cela, je voudrais qu'on écoute Nicolas. Bonsoir Nicolas.
Oui, bonsoir.
Allez-y,
à tous.
On vous écoute.
Oui. Bonsoir, du coup moi je vous appelle avec une casquette un peu particulière, je suis arbitre de rugby au niveau amateur, et du coup en fait nous on a zéro consigne là-dessus au rugby, en fait c'est pour relever un peu l'hypocrisie de la dureté des décisions qui ont été prises par les instances du foot, où du coup nous des comportements, ces chants-là, ces insultes-là vis-à-vis des arbitres ou des adversaires, on les observe au rugby, on les observe dans beaucoup d'autres sports. Et là, c'est uniquement le foot professionnel qui a été ciblé. Et du coup, avec une escalade, d'un côté, les supporters qui répondent par du trolling et de l'autre, la ligue qui se montre de plus en plus sévère. Et c'est pas du tout constructif, et je le dis d'autant plus avec mon point de vue d'arbitre, où pareil, nous, si on applique une sanction de façon hyper drastique, sans aucun dialogue et aucune pédagogie, on va se prendre un mur, et c'est ce qui est en train de se passer, c'est que c'est en train de s'enfermer dans un dialogue de sourds, personne n'écoute personne, chacun renchérit et a des supporters qui vont de plus en plus loin, un peu dans l'outrance avec certaines bannières qu'on voit dans les stades, des sanctions qui sont de plus en plus lourdes. Encore une fois, si je continue, on parle avec le rugby, nous, on a des cas réglementaires d'arrêt de match. C'est quand la sécurité des joueurs ou des acteurs du match est atteinte de façon directe. Maintenant, on parle de bagarre, on parle de choses graves. Mmh. Et en arriver à arrêter un match parce qu'il y a quelque chose qui se passe autour et qui menace pas directement quelqu'un, il y a aussi une disproportion là-dessus.
Et en même temps, Nicolas, on en parle du coup. Est-ce que le sujet aurait été mis sur la table de cette manière? Est-ce qu'on aurait ces tables rondes à venir s'il n'y avait pas eu des arrêts de match?
C'est une bonne question, mais c'est aussi symptomatique de notre époque où chaque problème ou chaque chose qui se passe, on est obligé de suite de partir dans des extrêmes ou des choses très rapides. Et au final, ça sert rarement les causes, et Dieu sait que celle-là, elle est hyper importante. Et derrière, tout le monde reste campé sur ses positions et ça avance rarement. Et ce qui est aussi dommage, c'est qu'on n'étende pas ça aux autres sports, parce que le rugby, malgré notre enrobage,
alors là-dessus,
on est concerné.
Là-dessus, on va y venir. J'ai une dernière question, pardon pour vous.
Oui.
S'il n'y a pas cette prise de conscience, en fait, comment on fait pour régler ça? Parce que si on ne va pas à la prise de conscience, donc on ne se met pas autour d'une table. Et si on ne se met pas autour d'une table, on ne parle pas du problème. Donc, à quel moment on arrive à le régler si à un moment, il n'y a pas quelqu'un qui tape du poing sur la table? Peut-être mal, peut-être pas comme il faut, j'en sais rien. Mais à quel moment on arrive à le régler si à un moment on ne le prend pas de plein fouet le problème, en fait? À bras le corps plutôt d'ailleurs.
Il faut plutôt essayer d'être dans l'éducation, la pédagogie. Nous, je sais qu'au rugby, sur le jeu, on a fait changer des comportements sur les plaquages, sur les mêlées, des choses qui étaient ancestralement ancrées dans notre jeu. Et par de la pédagogie, par l'écoute, des techniciens de la mêlée avec des arbitres, et c'est flagrant. Maintenant, on n'a plus d'handicapés sur des mêlées parce que du coup, les gens se sont parlé alors qu'on nous disait que c'était un changement culturel, la mêlée sans impact. Et ça a marché.
Merci Nicolas pour votre intervention. James Roffet, vous vouliez intervenir, et surtout sur l'idée, il n'y a pas que le foot.
Oui, mais enfin, je vais quand même faire des précisions parce que la question que vous posez était bonne, et à la limite, la question qu'aurait dû poser tout le monde, c'est est-ce qu'il y a des choses qui se font? Est-ce que le débat a déjà commencé? Et en l'occurrence, il avait déjà commencé. Personne n'a attendu qu'il y ait cette polémique pour commencer à lancer des pistes. Et ce qui est très important. Et d'ailleurs, je vais vous faire quelques précisions. C'est un sujet à l'instance nationale des supporters qui dépend du ministère, qui est acté depuis la création. Après, pour des raisons de moyens, de volonté politique, il n'a pas été mis à l'agenda. Mais par contre, les associations de supporters étaient déjà prêtes à s'engager. Et pour répondre au monsieur, il y a des représentants de la Ligue de rugby et des représentants d'associations de supporters du rugby.
Que vous croyez
et en
pas...
fait, le problème, c'est que là, il y a eu un emballement médiatique. Là où il y avait des prémices de travaux et plutôt que les gens commencent à se rencontrer, alors on peut reprocher
attendez,
le fait que ça soit long.
C'est ce que j'allais vous dire, James Roffet. Pour décider si oui ou non, il y a de l'homophobie dans les stades, est-ce qu'il faut vraiment faire 28 réunions et se poser la question de cette manière-là?
Justement, vous avez tout dit, il faut déjà que là, ça se passait dans le cadre du ministère des Sports, il faut que les réunions prévues soient actées et soient mises en place, et commencer par la première. Là, c'est là-dessus, par contre, où on aurait pu avoir un débat et se dire, tiens, comment ça se fait qu'on n'a pas été plus rapidement sur ces débats, parce que ça date depuis quand même pratiquement 2 ans.
Ouais. Hein, décidément, le sport, c'est comme la politique, c'est doucement le matin, pas vite le soir.
Et pourtant, les associations étaient là.
Julien Pontes, rapidement, pour répondre à ça.
Oui, rapidement, c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps sur des choses, finalement, qui sont simples et qui se font à l'étranger, hein. Les interdictions de stade pour des propos homophobes, ça existe. Hein. Arsenal, en début d'année, un supporter exclu de stade pendant 3 ans pour des propos homophobes. C'est facile, c'est simple. Ça donne un petit peu une idée de la limite à ne pas franchir. Nous, ça fait des années qu'on alerte sur le niveau d'homophobie avec des indicateurs très précis dans le football. Ça aurait dû appeler des plans d'action de la Ligue et des ministères. Mais on a perdu un temps fou. Depuis 2013, on alerte. Et maintenant, on est en 2019, ça pète. Eh ben oui, effectivement, si on n'a pas sensibilisé et éduqué avant, eh ben effectivement, quand on met des arrêts de match, ça pète.
Philippe Lothar, moi, il y a une chose qui m'interpelle avant qu'on retrouve notre prochain auditeur. On a entendu au début Emmanuel Macron, notamment, approuver les arrêts de match tels qu'ils ont été faits. Et puis, on a entendu aussi, à partir de c'était hier soir, je crois, des mots qui disaient plus, il faut faire preuve de discernement, etc. De quoi on parle quand on parle de foot? Parce que c'est pour ça aussi que les choses sont très lentes. De quoi on parle? À qui on s'adresse? À quelle France on s'adresse? Et c'est peut-être la raison pour laquelle les choses sont difficiles, parce que là, la politique commence à rentrer aussi en ligne de front, en fait.
Oui, alors, y a plusieurs choses dans votre question. La question, elle se pose, bien sûr, le sport de haut niveau, le sport professionnel, le sport spectacle, et notamment le football, c'est un objet sur lequel il y a une forme de consensus politique. Si on regarde de droite à gauche, en passant par le centre, tout le monde est d'accord, en fait. Et c'est quelque chose que j'observe depuis déjà de nombreuses années. Il n'y a pas de désaccord sur le sport. Comme si c'était un espace comme ça, où tout se passait bien. Donc là, la question par rapport à la position du président...
Moi, j'ai entendu quelque chose, pardon de vous interrompre, qui disait... vous vous souvenez de Pompidou qui disait « on va pas emmerder les Français avec leurs voitures ». J'ai eu un peu le sentiment d'entendre quelque chose d'un peu similaire, qui disait « si on met les pieds dans les stades de foot, oulala, ça va devenir compliqué, en fait ». Un sport qui est si populaire et qui draine autant de monde.
Alors, c'est un sport populaire dans les deux sens du terme. C'est un sport populaire parce qu'il draine du monde, et c'est un sport populaire parce qu'il il recrute ses pratiquants et ses pratiquantes dans des milieux populaires. Et de la même façon, les supporters sont recrutés aussi dans des milieux populaires. Donc, c'est populaire dans les deux sens du terme. Or, les hommes politiques qui vont au stade, en général, ils y vont pour travailler leur popularité. Et quand l'équipe de France gagne, que ce soit le président Macron ou le président Chirac, eh bien, on sait qu'ils ont un gain de popularité alors qu'ils n'ont pas mis les pieds sur le terrain. Donc, c'est quelque chose qui est assez surprenant. Néanmoins, pour répondre à votre question, je pense que là, ce qui s'est passé, c'est d'abord une volonté de dire il faut arrêter les choses. C'est ce qu'a fait la Ligue, par exemple, avec la volonté d'arrêter les matchs. C'est un dispositif qui, contrairement peut-être au rugby, est contenu dans le règlement. L'arbitre a la possibilité d'arrêter le match. Sauf que là, ils ont reçu des consignes, les arbitres. Et puis après, on se dit, finalement, on s'aperçoit bien que depuis le fin août, ça ne fonctionne pas. Au contraire, ça ne fait que générer des réactions, ça ne fait que générer de la provocation. Et là, Emmanuel Macron, qui n'a pas particulièrement réfléchi sur la question, il voit quand même bien que les choses, en fait, elles ne sont pas aussi simples. Et c'est, en fait, l'objet de notre débat, là. Ça n'est pas si simple. Et j'ai particulièrement apprécié l'intervention de Nicolas, l'arbitre de rugby, quand il parle d'éducation, de pédagogie. Et ça, pour moi, c'est très différent dans le foot. Dans le foot, la formation des arbitres, elle est cloisonnée par rapport à la formation du joueur. Les jeunes arbitres qui commencent à vouloir être arbitres, ils ne jouent plus au foot. Et c'est un des seuls sports où ça se passe. Alors que justement, apprendre à jouer, apprendre à arbitrer, apprendre les règles, apprendre les limites, ça fait partie de la pédagogie. Et on peut pas opposer dans un même sport des gamins qui jouent et des gamins qui arbitrent, en leur disant justement, dans le foot, contrairement au rugby, on ne parle pas. On siffle, mais on n'a pas à discuter avec les joueurs. Tout ce qui est avec tout ce qui est justement la dimension pédagogique, je siffle, j'explique pourquoi j'ai sifflé, ou alors même j'anticipe avant de siffler, je dis attention monsieur, vous êtes hors jeu, ça change complètement le rapport de force. Et ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la Ligue, au niveau de la Fédération, c'est qu'il y a un rapport de force qui est institué entre des institutions, la Ligue et la Fédération française de foot, qui n'ont pas l'habitude vraiment de discuter et de voir leurs décisions mises en question.
Je voudrais qu'on écoute Yves, puisqu'on est en train de parler de petits, d'enseignement et cette volonté-là. Bonsoir Yves.
Bonsoir.
On vous écoute Yves.
C'est le téléphone sonne. Sur le terrain, là, on galère bien avec leurs histoires de...
Vous êtes enseignant, hein, Yves. Vous êtes enseignant.
Sur le terrain, moi, mon quotidien, c'est le terrain de foot, c'est tous les jours.
Vous enseignez la gym, on est d'accord, l'EPS, vous êtes prof de PS.
Oui, l'EPS, notamment beaucoup de foot, parce que moi je suis passionné de foot, j'adore ce sport. Mais tous les jours, on doit remettre les pendules à l'heure, leur expliquer que non, sur les stades on rigole, sur les stades on s'amuse, sur les stades on fait la fête ensemble, en jouant, en essayant de gagner, en essayant de battre l'adversaire, il n'y a pas de problème. Mais l'adversaire, c'est notre meilleur ami, parce que c'est sa valeur qui nous donne notre valeur. Enfin voilà, il y a toute cette idée-là de la joie, du plaisir... Et que tous les week-ends, quand ils reviennent, ils ont vu les matchs à la télé, ils comprennent pas pourquoi nous on arrête le match, mais même pas une insulte, on arrête le match parce que dès qu'on crie, dès qu'on critique son partenaire, nous on arrête les matchs. Enfin, voilà. Il y a beaucoup à prendre sur le terrain du sport populaire.
Ça veut dire que vos élèves à vous, Yves, comprennent mieux qu'on ait arrêté les matchs, au fond, que des supporters qui ont déjà 25 ans de supportariat derrière eux, au fond, et qui râlent parce qu'on a arrêté les matchs.
Disons qu'on les éduque, quoi. Disons que c'est notre quotidien et que tous les jours, ils comprennent dans l'intérêt, dans leur intérêt à eux, de plaisir, d'amusement, que si on arrête le match parce qu'il y en a un qui les a insultés ou qui leur a, même simplement qui les a critiqués ou qui les a, qui leur a dit un mot blessant, eh ben on dit pas ça. En sport, on s'amuse et on essaie de faire pour le mieux tous ensemble, quoi.
Merci.
Donc oui, non, ça s'appelle de l'éducation. C'est bizarre comme mot, mais ça s'appelle comme ça.
Ouais, c'est bien de s'en souvenir. On va même mettre un E majuscule. Allez savoir. Merci pour votre témoignage, Yves. Julien Pontes pour répondre et puis James Roffert.
C'est vraiment très beau, hein, ce que je viens d'entendre. Je dois avouer que moi, quand je regarde un match, j'ai pas envie d'injurier l'adversaire. J'étais président du Paris Foot Gay. On avait une équipe avec des joueurs majoritairement hétéros. Bref, moi, je m'en fichais de savoir qui était homo, hétéro. Ce qui m'importait, c'était la solidarité sur le terrain, le respect de l'adversaire. Il n'y a pas de but homo, il n'y a pas de but hétéro. Ils étaient tous ensemble, solidaires sur le terrain. Et à aucun moment, il y avait l'injure qui était dans le paysage. J'aimerais savoir, James, excusez-moi, est-ce que tu peux envisager un stade de foot, un match avec des encouragements et sans injures en direction de l'adversaire. C'est une question que je me pose.
Hier, France Andorre, honnêtement, on n'entend rien dans les tribunes, à part des gens qui sont contents d'être contents, non?
Ça, je sais pas. Après, c'est une question philosophique de société. Moi, si vous me demandez mon avis, j'aimerais vraiment, de façon utopique, on s'embrasse et tout. Après, le foot, c'est une histoire d'opposition. Alors, si c'est pas injurieux, que ça soit pas injurieux, moi, c'est ça mon sujet.
Ouais.
C'est-à-dire que là, alors, je suis désolé, hein, je vais revenir justement au cas de la loi. Ce que tu disais, Julien, tout à l'heure, était très important avec la comparaison en Angleterre. En Angleterre, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui s'est rendu coupable d'une injure homophobe ou je généralise pour n'importe quelle forme de discrimination. Eh ben, la police le prend, il va passer devant un juge, et si jamais il est coupable, on le sanctionne. Aujourd'hui, en France, on n'est pas capable de ça, donc qu'est-ce qu'on fait pour substituer, en gros, ce manque de vraies sanctions? On va inventer alors un arrêt de match, des sanctions collectives, c'est-à-dire une fermeture du tribune, parce qu'il y a une petite confusion qui se fait, en fait, entre sanctions. L'arrêt de match n'est pas une sanction. La fermeture du tribune est une sanction. Et en fait, là vous faites quoi? Et celui qui s'est rendu coupable, il n'est pas trop embêté. Et là, vous embêtez tout le monde. Donc, vous suscitez des réactions épidermiques.
Ouais, mais
finalement,
sauf que
c'est contre-productif.
Vous croyez? Parce qu'à un moment, c'est ce que disait Griezmann, c'est pas moi, mais au bout d'un moment, les supporters qui n'insultent personne, ils en auront marre que le match s'arrête.
Alors,
donc peut-être qu'ils pourront avoir aussi une influence sur ce qui
malheureusement, là, je peux vous parler d'expérience, parce que ça fait longtemps que je travaille sur les questions de supporterisme. Ça, on l'a vu sur d'autres sujets. C'est-à-dire, les sanctions collectives en France, c'est une particularité française. On est les seuls à s'obstiner là-dessus. Ça ne marche pas. Tout le monde le sait. Ça ne fonctionne pas. Que ce soit pour la pyrotechnique, que ce soit pour d'autres choses. Ça ne fonctionne pas. Tout simplement, ça ne fonctionne pas parce qu'à côté de ça, il n'y a pas... en fait, l'État régalien ne fait pas son boulot, c'est-à-dire d'aller sanctionner des coupables. Donc ça ne pourra jamais marcher. Ça, c'est un constat qu'on fait.
Ouais, mais ça veut dire, pardonnez-moi, James, ça veut dire que la responsabilité, c'est pas la vôtre. Or, la responsabilité, c'est celle des supporters. Donc quel est le rôle des supporters? Vous l'avez dit, il faut discuter, il faut se mettre autour d'une table. Qu'est-ce que vous dites, vous, à un type, je vais y aller franchement, qui traite l'arbitre d'enculé? Qu'est-ce que vous lui dites? Est-ce que vous dites, tu ne dois pas le faire, ne le fais plus, c'est pas comme ça que ça marche, ou pas?
Alors,
c'est votre boulot, vous,
non,
association.
Je vais vous parler en toute franchise. C'est comme je vous disais au début, en fait, c'est une question de mauvaise habitude. On ne se posait pas trop la question. Et en fait, c'est vrai que depuis quelques temps, alors en plus, là, je vais contredire la personne qui a parlé qui est à l'autre bout de l'agneau. Dès l'instant où on a eu les premières discussions avec la présidente de la Ligue, ce sujet, elle nous l'a mis sur la table. Voilà, moi... C'est un sujet que je commence à mettre en place.
Vous ne répondez pas à ma question. Je voudrais savoir quel est...
Attendez,
parce que juste pour qu'on continue à aller au standard, moi je veux savoir pourquoi, à l'intérieur des associations de supporters, vous ne pouvez pas, entre vous, vous parler et vous dire, voilà ce que nous, collectivement, il y a 80 000 personnes au Stade de France, combien il y en a ?
Justement, j'y viens. Et aujourd'hui, nouvellement, c'est un débat qui a... Et paradoxalement, moi ce que je peux dire, c'est que les différents groupes de supporters avec qui j'ai pu discuter, personne n'est fermé à ce débat. Par exemple, sur la question de PD, c'est homophobe. Ouais, c'est vrai. Tiens, là, il y a quelque chose. Après, malheureusement, sur les autres mots, je ne vais pas vous dire qu'on aura une grosse avancée sur le débat, mais vous voyez ce que je veux dire? La sensibilisation, elle commence. C'est-à-dire, elle est là. Après, moi, j'ai juste une chose, et ça, c'est en cours de réflexion dans nos groupes de supporters. Par exemple, on dit, tiens, le premier truc, c'est vrai que nous, on a fait un constat, notamment au PSG, c'est que quand il n'y avait pas de structure associative, en fait, il n'y avait que de l'insulte au stade. Donc, c'est venu, en plus, on dit, ah bah ouais, finalement, nous, on arrive à réguler, peut-être qu'on peut faire quelque chose ou pas. Je ne dis pas qu'on va régler, mais au moins, la discussion est là. Par contre, ce qu'on demande, c'est que Ça, c'est une vision globale. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire d'un côté, si par exemple, je vous donne une idée comme ça, des présidents ou la Ligue et tout sur les enfants qui vont au stade, par exemple, il n'y a pas des fascicules ou des petites façons pédagogiques
de le faire. Donc, voilà. C'est la faute de la Ligue, c'est la faute.
Tous les acteurs doivent le faire ensemble.
Avec les enfants quand ils arrivent au stade, mais vous, supporters, entre vous, et James, je n'ai aucun doute sur le fait que vous ne passez pas votre temps à hurler des insultes.
On commence à en discuter.
Ouais, ben, mais enfin, parlez-vous, quoi. Enfin, je veux dire, pourquoi ça me paraît incroyable. Que ce soit si difficile.
Mais alors moi, je peux vous dire, peut-être que de votre point de vue, c'est ça. Moi, pour avoir justement, comme le disait le premier auditeur, depuis 25 ans quand on est habitué, je trouve incroyable d'avoir autant d'écoute et autant de volonté de discuter et pas un blocage comme ça peut être une caricature dans les médias.
Julien Pontès, rapidement, parce que je voudrais qu'on écoute Guillaume Matin qui revient des Pays-Bas, qui nous raconte un peu comment ça se passe.
Optimiste,
très bien. Oui, moi je prendrais juste un exemple d'un groupe de supporters qui s'appelle les Ultramarines, des supporters des Girondins de Bordeaux, qui avaient donc déployé une banderole en disant « Virage Sud contre l'homophobie ». Ils ont fait ça spontanément. Je pense que les clubs de supporters, depuis le temps qu'on sait qu'il y a des problèmes d'homophobie dans les stades de foot, aurait dû prendre des initiatives pour des banderoles très simples avec des messages de respect de la diversité. On attendait ça, mais maintenant il faut qu'ils le fassent. Nous, on les encouragera à le faire.
Et je voudrais qu'on voit comment ça se passe ailleurs. On va entendre Olivier dans un instant. En un mot, Guillaume Batin, moi je vous ai entendu nous expliquer sur l'antenne d'Inter ce matin qu'il y avait un char, par exemple,
de la KNVB, l'équivalent de la FFF.
De l'équivalent de la Fédération Française de Foot à la Gay Pride en Hollande. Comment on en est arrivé là?
C'est ça. Il y a aussi des clubs de supporters gays, j'ai rencontré les Hérons Roses de La Haye qui ont leur club de supporters dans le club de La Haye.
Ça n'a pas commencé comme ça. Comment ils ont réussi ça?
Eh bien, vous posiez la question tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faut pas que quelqu'un tape du poing sur la table? Eh bien, l'homologue de Noël Le Graët, le président de la KNVB, Michael von Praar, en 2012, en a ras-le-bol des cris racistes, des insultes homophobes. Il réunit tout le monde à l'image de ce qui s'est passé aujourd'hui. Les gens discutent et en quelques temps, ça arrive très vite, il y a 12 points, 12 plans d'action. Peu de choses répressives, les interruptions de match, ça les a fait sourire de voir qu'il se passait ça chez nous parce qu'ils ont même pas eu besoin d'aller jusque-là. Des expulsions, plutôt des interdictions de stade pour des gens qui sont identifiés par les caméras. On les connaît, ils ont les licences. James a celle du PSG, il y a son nom, son prénom, son adresse, c'est facile d'identifier. Ces gens-là, quand ils sont reconnus, coupables, accusés, ils viennent au stade. S'ils viennent pas, ils sont automatiquement interdits de stade. Et s'ils viennent, ils rencontrent la direction de leur club avec des associations comme Rouge Direct et on sent bien un échange. Et puis il y a un travail de fourmi, d'associations, la fondation Blankenstein notamment, celle qui est du nom d'un arbitre qui a fait son coming out pendant qu'il était arbitre international. Et aujourd'hui, ça arrive à ce résultat avec ce char de la KNVB à côté des policiers et des pompiers. Mais ça a été un long travail et c'est aussi parce que la société néerlandaise est bien plus avancée que la nôtre. Je rappelle que le mariage gay était autorisé là-bas il y a plus de 15 ans.
Justement, on va rester autour des mêmes thèmes. Merci beaucoup, Guillaume. Bonsoir, Olivier.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Eh bien, écoutez, moi, je ne suis pas du tout un passionné de foot. Mon fils m'en a dégoûté pendant toute sa jeunesse. Mais j'ai fait plusieurs séjours au Brésil et j'ai eu la chance d'assister à un match de foot à Maracana, donc le temple du temple du football, où je peux vous assurer que les supporters sont vraiment très chauds, très violents. On insulte le joueur, on le traite de fio de puta. Mon épouse a failli se prendre un siège parce qu'un supporter mécontent avait tapé dans son siège et s'était passé pas loin de sa tête. Bon, il nous arrive pas beaucoup de bonnes nouvelles en ce moment du Brésil, vraiment pas. Cependant, le problème a été un petit peu abordé, mais d'une façon radicale. C'est-à-dire que les supporters d'un club manifestent des propos racistes, homophobes, etc., le club se prend 3 points de pénalité. C'est-à-dire qu'au classement, le club rétrograde de 3 points. Alors, c'est une mesure peut-être un peu radicale qui n'obère pas toutes les autres mesures d'éducation, de prévention, de tout ce que Monsieur Papin vient d'expliquer, notamment, ce qui me paraît très intéressant. Mais là, au moins, si on veut avoir la volonté politique d'amener quelque chose, là, les supporters s'autodisciplinent, les clubs, par rapport à leurs supporters, vraiment font en sorte que ça se calme un petit peu, ou même beaucoup. Alors, je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais voilà, c'est un témoignage que je peux apporter. Voilà.
Merci beaucoup, Olivier. James refait moins 3 points. Est-ce que ça serait un poil moins bien vécu encore que d'interrompre le match quelques secondes, non?
Ah bah c'est, alors que ça soit mal vécu, ça je sais pas, mais après le problème c'est que ça crée des opportunités. Si jamais vous voulez aller faire perdre des points à l'autre équipe, c'est facile. Si vous n'êtes pas ciblé, vous pouvez aller très bien vous faire passer pour un supporter d'autre équipe et vous allez insulter tout le monde et vous allez perdre des points. En fait, j'en reviens tout à l'heure, et ça c'est une discussion qui sera intéressante parce que là on revient sur les propos du président. En gros, c'est quelle solution pourrait être trouvée pour qu'on puisse avancer et qu'il y ait des sanctions comprises et efficaces. Or là, moi, ce que je peux vous dire, je le répète, c'est qu'on a déjà le constat que ces mesures-là ne sont pas efficaces. Mmh. Alors, c'est des idées qui sont lancées. Moi, je pense que
vous n'arrêtez pas de nous parler de mesures qui ne sont pas efficaces. Il n'y a rien qui est efficace.
La vraie sanction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors ça serait difficile à expliquer, un arrêt de match, ce n'est pas une sanction. Ce n'est pas une sanction.
C'est vécu comme ça par les supporters, c'est déjà ça de pris, non ?
Peut-être, mais à la limite...
Non, mais du coup, c'est moins grave que perdre deux points, mais c'est vécu comme une sanction.
Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez fait avancer la discussion ? Par contre, ce qui va être intéressant, et là, dans la sensibilisation, c'est que, en fait, on a un peu des causes communes, parce que tout le monde veut lutter contre toutes les discriminations. Et les supporters, c'est les premiers à aller expliquer qu'ils sont victimes de discrimination, avec des mesures administratives, etc. Et que là, on a une convergence pour dire, voilà, on lutte contre toutes les discriminations, et c'est beaucoup plus sensible à dire, attendez, vous, ce que vous ressentez, c'est une chose, nous, ce qu'on ressent, c'est une chose, il faut qu'on avance tous ensemble. Sur les sanctions, on est dans un état de droit, il y a des sanctions qui sont très, très lourdes et qui peuvent être appliquées.
C'est compliqué de mettre au même niveau, vous l'avouez avec moi, des sanctions.
Sensibilisation. Les sanctions sont lourdes, elles existent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut appliquer.
Non, mais se sentir discriminé quand on est supporter parce qu'on n'a pas accès à un match à l'extérieur et se sentir discriminé quand on est gay, il faut faire attention quand même.
Mais si vous êtes jugé pour des propos homophobes ou pour une discrimination homophobe, circonstance aggravante, vous vous retrouvez avec des sanctions qui sont très lourdes. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Après, une interdiction de stade par rapport aux sanctions que vous pouvez avoir judiciairement, c'est quelque chose qui vient en plus.
Il faut vraiment qu'on termine. Je voudrais quand même vous soumettre ce tweet d'un internaute qui nous dit: aux États-Unis, dans les stades de foot américains, les écrans géants invitent le public à envoyer par SMS le numéro de siège des spectateurs au comportement ainsi comme par exemple les insultes, d'un extrême à l'autre évidemment, mais est-ce là le modèle à suivre ? Effectivement, c'est pas tout à fait dans notre culture, ce côté où on dénonce vraiment, mais ce que ça dit simplement, c'est que parfois, quand on veut mettre des moyens qui sont forts, on fait des choses dans certains pays, trois points, où là, les SMS qui font réfléchir les gens. Juste, Julien Ponta, je sais que vous vouliez réagir, mais vous avez très peu de temps.
Oui, il faut individualiser et cibler les auteurs de ces faits homophobes. C'est pour ça que nous, on a porté plainte suite à l'arrêt de match Nancy Le Mans. Il faut vraiment identifier, c'est facile, comme disait Guillaume Batin. Donc, il faut cibler, ne pas pénaliser tous les spectateurs et les joueurs avec ces arrêts de match. Et puis, évidemment, renforcer certaines sanctions. Tout ça est sur la table, il faut maintenant qu'on avance ensemble avec les supporters. C'est l'affaire de tout le monde.
Voilà, et c'est ce qui se passe en ce moment dans les fameuses tours de table et tables rondes dont vous parliez tout à l'heure. Merci beaucoup, vraiment merci à tous pour ce débat. Merci pour vos très très nombreux appels et portez-vous bien.